France Inter.
Merci Eric Delvaux pour ces informations. J'entre dans mon bistrot à l'instant et j'attends Antoine Decaune. Ai-je besoin de vous en dire plus pour vous donner envie d'écouter ? Ah bah voilà, c'est Antoine Decaune, il traverse pas dans les clous.
Bonjour, enchanté. Comment il s'appelle ?
Martin.
Et Martin.
Martin Troisdet.
Anaïs.
À la technique. Anaïs Reynard à la réalisation. Je te présente Ophélie Vivier, chargée de programme.
Bonjour Ophélie Vivier, chargée de programme.
Moi je m'appelle Charline Wagenacker.
Charline, est-ce qu'on se connaît ? Bonjour Charline.
Bonjour.
Je t'ai pas reconnue avec mes lunettes.
Qu'est-ce que tu fais le samedi soir, Antoine ?
À l'époque, je fréquentais beaucoup les Macumba. À l'époque, j'étais une espèce d'étoile de la piste. J'avais une danse particulière qui s'appelle le pointy. Si je le fais là, ça, à la radio, ça...
Non, mais il va falloir décrire là maintenant.
C'est un peu comme ça la figure, c'est...
C'est un peu Bee Gees.
Bah, je suis de cette période, moi. Je viens de là, ouais.
Venez, Antoine, nous allons discuter.
En route, ma best troupe.
Charline Wagenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Alors, bonjour Antoine.
Il va tout faire tout seul.
D'où venez-vous ?
Bien, j'ai un professionnel avec moi.
Je sors d'une projection.
Ah oui ? Vous avez vu quoi, là ?
Je vois beaucoup de films en ce moment.
Ah oui, pour une émission sur Canal+.
Préparer surtout un peu les Cannes.
Ah oui.
J'anticipe, comme ça j'ai pas trois films à voir par jour là-bas, donc j'en vois quelques-uns.
Donc vous pouvez nous dire en avant-première si le cru est pas mal ?
Le cru est stable. J'en ai vu un remarquable ce matin. Remarquable. Le Roi Soleil. Ouais, avec Pio Marmaille et Sofiane. Une espèce de polar qui tourne mal et qui est en même temps assez drôle. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Très belle mise en scène.
Bon, il a déjà commencé à faire les questions et les réponses tout seul. Mais oui, j'ai un professionnel.
Il me demande ce que j'ai vu, moi je réponds.
Nos auditeurs sont au courant qu'on se connaît un petit peu, Antoine, puisqu'on s'est passé l'antenne plusieurs années. Vous à 16h à Pop-Pop, moi à 17h, c'est donc un petit peu l'amicale des anciens, n'est-ce pas ?
La reconstitution de Ligue dissoute.
Et oui, et pourtant nous avons tant de choses à apprendre de vous, cher Antoine Decaune, et moi la première, et parce que vous vous dévoilez beaucoup finalement à travers cette bande dessinée consacrée à un épisode de la vie de votre père, Georges Decaune. Il déserte, il c'est lui, Georges, avec les magnifiques dessins de Xavier Coste, c'est paru chez Dargo. C'est un très très grand format, hein. Ça peut faire une très jolie table basse une fois qu'on l'a lu.
Faut pas se laisser tomber sur le pied, quoi. Ça peut caler une armoire normande, éventuellement, mais...
Exactement.
Faut délicat dans la manipulation.
Lorsque vous aviez 8 ans, votre père...
8 ans, ça y est, elle me l'a fait. C'est parti. Festival des 8, là.
S'il était parti à 9 ans, j'aurais moins d'emmerde.
Non, il est parti, j'avais 8 ans.
Georges a perdu...
J'avais 8 ans quand il est parti, oui.
Exactement. Et le célèbre journaliste Georges Decaune prend sa valise et son chien pour s'installer un an sur une île déserte des Marquises, ce qu'on peut appeler une idée de merde, parce que d'une part, l'enfant que vous êtes se sent abandonné, et que votre père, il va en baver des ronds de chapeau sur ce rocher complètement hostile, les moustiques, l'absence d'eau potable, le cagnard, et j'en passe, on va en parler. Vous racontez cette histoire en partie de votre point de vue, et en grande partie du sien. Parce qu'il tenait non seulement une chronique à la radio, Georges Decaune, sur Paris Inter, l'ancêtre de France Inter, on peut dire... Et il tenait un journal intime. Enfin, quand on est aventurier, on appelle ça journal de bord.
Évidemment. Journal de bord,
ouais. Et oui. Votre père était tellement visionnaire en matière de télévision que 40 ans avant, il a inventé Koh-Lanta.
Oui, alors je ne sais pas si c'était dans cette intention-là qu'il est parti là-bas ou s'il était à ce point visionnaire. Mm-hmm. Il est parti parce qu'il avait envie d'aventure. Et il avait envie d'aventure parce qu'il faisait partie de cette génération qui avait traversé la guerre, qui avait été privé littéralement de sa jeunesse, entre 20 et 24 ans. La guerre a éclaté en 39, il était né en 19. Qui avait une enfance un peu solitaire, parce que son père était déjà assez éloigné. Enfin, il travaillait à Nice, il revenait à Toulouse, il le voyait assez peu. Puis des années de pensionnat, un pensionnat vraiment dur chez les jésuites à Toulouse, au Caouzou, qui décrivait comme une prison, littéralement. Et puis un père qui perd très tôt, à l'âge de 16 ans. Donc tout ça mis ensemble fait que, au sortir de la guerre, il a besoin d'air, il a besoin de partir, de vivre de grandes aventures. La première de ces aventures étant les expéditions polaires au Groenland avec Paul-Émile Victor, où ils partent, voilà, au Groenland, ce Groenland si convoité aujourd'hui. Mais une expédition déjà dangereuse. Vraiment, il y avait risque de mort d'homme. D'ailleurs, il y a eu des morts pendant l'expédition. Et il était parti. Alors là, sa première femme s'appelait Benoît de Groult. Et il attendait une deuxième fille qui est née pendant son absence.
Ah.
Donc c'était presque une habitude chez lui de s'éloigner.
Comme vous, à votre naissance, il était en reportage, non ?
Exactement, ouais. Il était en Grèce quand je suis né. Il y avait un gros tremblement de terre en Grèce, sans aucune relation avec la femme que j'ai épousée par la suite, hein, bien entendu, Daphné. C'était un homme qui était absent, en fait. Je ne sais pas s'il était absent à lui-même, mais il était absent dans la réalité.
Alors, quand est-ce que vous avez mis la main sur ces écrits, sur ce journal de bord ? Parce que vous l'entendiez petit à la radio, raconter son aventure au quotidien. C'était comme ça que vous avez des nouvelles.
Ouais.
Mais il a fallu, pour raconter, avoir cette bande dessinée aussi.
Alors, le fameux journal de bord, je l'avais sous la main, si je puis dire, puisqu'il était dans le tiroir de ma table de chevet depuis quelques années. Et j'avais renoncé à le lire parce que mon père avait une écriture absolument impossible. Un médecin sous calmant, quoi. Donc je l'avais pas lu.
Et ça que vous l'avez pas lu.
Oui, c'est pour ça. Non, vraiment.
C'est vraiment mal écrit.
Très sincèrement, c'était difficile à lire, c'était pénible. Donc je m'étais dit un jour je le lirai.
Vous êtes une feignasse, quoi.
J'avais reporté ça. Non, puis je connaissais cette histoire. Je m'attendais à ce qu'il y ait des confidences un peu plus privées dans le bouquin que ce qu'il racontait à la radio tous les soirs, évidemment. Mais je n'éprouvais pas le besoin ardent d'aller découvrir tout ça. Et puis est arrivée cette proposition de BD avec Xavier.
Oui, bien sûr.
J'insiste et je redirai 100 fois le nom de Xavier parce qu'il n'y a pas d'île déserte s'il n'y a pas Xavier. Mm-hmm. Xavier Coste, qui a fait un travail graphique sublime.
Et c'est d'autant plus fort de la part de Xavier Coste que l'île, elle est avec des eaux marronnasses et c'est juste un rocher tout à fait hostile.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Et les couleurs sont éclatante, éblouissante.
Alors, ce qui est marrant, c'est que Xavier, il avait reçu le prix Inter, d'ailleurs, pour 1984, l'adaptation de George Orwell.
C'est comme ça que vous l'avez rencontré ?
Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontré. Il a fait, sans que personne lui demande quoi que ce soit, il a fait 1985 derrière, sans que George Orwell soit au courant. Et puis, il aime bien les George, apparemment, parce que cette histoire de George de Cône lui a immédiatement parlé. Et il avait besoin, après des années de récits dystopiques, noir, blanc, rouge, voilà, comme couleur primaire, il avait besoin d'air, de lumière et de grande aventure. Et il avait en tête une idée de Robinsonade. C'est dingue.
Et c'est fortiche parce que c'est vraiment qu'un caillou. Donc il faut dessiner un caillou
ouais.
pendant...
C'est un caillou pelé. C'est-à-dire qu'en fait, mon père a cherché pendant des mois et des mois l'île déserte de ses rêves, qui était l'île de Robinson, avec le lagon poissonneux, avec des arbres fruitiers, du gibier, de l'eau claire à volonté. Et là, pas du tout. Alors ce sont des îles qui existent, mais qu'il faut louer à leurs propriétaires. Et les propriétaires, voyant la radio française arriver pour faire une expérience d'un an, demandait toujours des baux absolument intouchables. Et donc finalement, c'est la Marine nationale qui lui a procuré cette île, qui appartient à l'État français, qui avait servi de bagne au 19e siècle, mais que la France avait abandonnée parce que les conditions de vie étaient trop, trop dures.
Donc ça veut dire que la Marine nationale, elle loue des Airbnb.
Voilà, d'une certaine manière, oui. Alors il faut aimer les moutons, hein, parce qu'ils avaient laissé les moutons en partant, les Français, moutons qui avaient proliféré et absolument ravagé toute la végétation.
C'est là que je me suis dit, choisir cette île et IAO qui est ultra hostile.
Ouais.
C'est un bagne, ouais.
Ouais.
Vous ne pensez pas que la Marine nationale vous laisse débarrasser de votre père ?
C'est une explication assez plausible, ouais. Ouais, je crois. Alors, est-ce qu'elle avait intérêt à se débarrasser de lui ? Je ne sais pas. Mais je pense que quelqu'un a dû trouver ça malicieux d'aller lui refourguer cette île.
Ouais, ça sent ça un petit peu quand même.
Tu veux jouer le Robinson, tu vas voir.
Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce projet de bande dessinée, peut-être vous auriez jamais ouvert les carnets de votre père.
Oui, ou je les aurais ouverts bien plus tard. Il n'y avait pas d'urgence. Je connaissais l'histoire de mon père, je la connaissais dans les grandes lignes.
Oui, vous la connaissiez dans les grandes lignes, mais alors qu'est-ce que vous avez appris dans ces carnets ?
Alors,
ce que
j'ai découvert, c'est ce qu'il éprouvait vraiment, qu'il consignait. Parce que, comme c'était un journaliste, et un journaliste très fier de sa mission, parce qu'il était en mission là-bas, et tous les soirs, pendant quelques minutes, il rendait compte aux auditeurs de sa journée, de ce qu'il avait fait, de son expérience. Et donc, il cloisonnait très soigneusement sa vie professionnelle et sa vie privée. Et évidemment, pour rien au monde, il aurait parlé de ses femmes, de ses enfants à l'antenne, quoi. Donc, ce que j'ai découvert, c'est tout ce qu'il a vraiment ressenti et éprouvé sur cette île.
Et comme il sait parler deux choses, vous l'écoutez à la radio, vous avez 8 ans et il oublie...
Oui, j'ai toujours 8 ans, oui.
Attendez la fin de la question, justement. Heureusement, vous passez à 9 ans, mais ce jour-là, il ne le dit pas à la radio.
Ça, c'est vraiment une blessure d'enfance. Ouais. Je m'en souviens très très bien, le jour de mes 9 ans, j'attends impatiemment que mon père à la radio dise un mot pour moi, c'est toujours mon anniversaire. Ouais. Et pour les raisons que je viens de dire, évidemment, il ne le fait pas. Mon cœur se brise, il se recollera par la suite. Hein. Mais 60 ans plus tard, en lisant ce texte, je découvre qu'évidemment, il n'avait pas oublié qu'il l'avait soigneusement consigné dans son journal.
Et donc, si vous n'aviez pas ouvert le journal, parce que vous attendiez d'ouvrir...
Je ne l'aurais jamais su.
Mais c'est terrible.
Mais c'est dingue, hein.
J'en suis sans voix, Antoine.
Ah bah ça nous laisse sans voix. Ça
bah l'émission est finie, du coup.
Oui, bah voilà.
Allez,
bah il est déjà à quoi, 18h08
Oh là là.
18h08
Je vais en manger pendant tout l'entretien. Et pourtant, dire je pars sur une île déserte, c'est quand même nettement plus classe que de dire bon, bah, je descends chercher des clopes.
Ouais, alors c'est pas pour les mêmes raisons.
Non, non, bien sûr.
Ils cherchaient pas à s'échapper du domicile conjugal, d'ailleurs.
Mais justement, qui vous explique ce qui se passe ?
Alors lui me dit, je pars sur une île pendant un an. Je vais faire une expérience de naufragé volontaire, il me l'explique. Et je comprends pas très bien ce que ça veut dire,
il
un naufragé volontaire.
Avec ses mots d'adulte, quoi.
Oui, avec ses mots d'adulte.
Comme un reportage.
Comme un reportage, après m'avoir enjoint ardemment de lire Robinson Crusoe. C'est un livre qui m'ennuyait, moi. Je préférais 100 fois L'île au trésor, évidemment. Parce qu'il y a de la bagarre, il y a de l'action, il y a des pirates. Mais il m'en avertit, il me dit je vais faire ça, je vais faire cette expérience. Il en avertit ma mère, qui ne voit pas ça d'un très bon œil, c'est moins qu'on puisse dire. Il dit, enfin, qui essaie de le mettre face à ses responsabilités. Tu as un enfant en bas âge, il avait déjà deux filles hein, de Benoît de Groult. Enfin, tu ne peux pas mettre ta vie en jeu comme ça. Bah si. Je pense que c'était l'appel irrésistible du large. Et vraiment, il ne pouvait pas faire autrement.
Et votre mère, Jacqueline Joubert, elle a essayé de vous expliquer ?
Elle essayait de me rassurer, de me réconforter. Puis j'écoutais, moi, tous les soirs, la retransmission radio en direct dans la chambre de ma grand-mère, sur un vieux poste. Alors, il y avait pas mal de fritures. Hein.
Ouais. Ouais. Ah oui, c'était un exploit, il faut le dire, quand même, cette émission quotidienne.
Ah oui, oui, oui. Puis alors, c'était vraiment au fin fond des Marquises. Et puis, il avait un émetteur qui n'était pas récepteur. Le seul moment où il était en contact avec la terre ferme, c'était une minute avant l'antenne, où il faisait ses réglages avec le technicien. Et après, dès que c'était fini, ça coupait. Vous ne pouvez pas appeler la journée en disant « Attends, j'ai un problème ». C'est la vraie solitude, quoi.
C'est un journaliste qui s'est coupé de l'actualité.
Absolument, oui.
Peut-être ça aussi.
Ouais, je pense que ça ne faisait pas de mal, ouais.
Et ce qu'on comprend dans ce livre et qui est troublant aussi, c'est que, évidemment, quand vous êtes petit, vos copains de classe, ils trouvent ça super badass, que votre père soit un aventurier, etc. Puis vous avez cette faille intérieure.
Oui, mais en même temps, j'ai un père qui est un aventurier. J'ai un père qui est à l'autre bout du monde, tout seul sur une île, quoi.
Donc ça console, ça ?
Ah bah, mes copains, leur papa, ils sont garagistes, pharmaciens, avocats.
Donc vous racontez, vous la pétiez un petit peu,
quoi. Bah oui, ça me console. D'accord. Et puis je fantasme complètement, c'est ce qu'on raconte dans le livre.
Mais ça développe un grand sentiment d'abandon, c'est votre première expérience d'abandon, probablement.
Ça donne un avant-goût de la solitude, oui. Mais alors, il était très attaché à cette idée de solitude. En rentrant de Polynésie, il s'est acheté une maison dans la Vienne et il s'est mis à planter des arbres partout. C'était un paysan, mon père, avant toute chose, ce qui définit le mieux. Et pour me mettre, comme s'il voulait me mettre à l'épreuve, j'avais pas le droit de dormir dans la maison. Je dormais dans une cabane en bois qui était à 300 mètres de la maison et qu'il fallait que je rejoigne le soir avec une pauvre lampe de poche. Terrorisé, évidemment, parce que tout seul dans la nature, la nuit, et puis je m'enfermais dans cette baraque à double tour, j'entendais des animaux, des trucs qui venaient frotter contre les... Ah. C'était pour m'endurcir, quoi. Et maintenant, je peux dormir à peu près n'importe où. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Et ce sentiment d'abandon, il se répare, alors ? C'est pas pour moi, c'est pour une amie. Hein.
Ça se répare bien sûr puisqu'il est revenu. Voilà, c'est pas comme s'il m'avait abandonné une fois pour toutes et qu'il est disparu de la surface de la Terre.
Oui. Le mantra de Georges de Cône, c'est l'important, c'est de partir.
Oui.
C'est quelque chose que vous avez appliqué aussi ?
Ah oui, scrupuleusement, tout au long de ma vie. Ouais.
Par exemple, quand vous êtes au top du top avec José Garcia, nulle part ailleurs, et au top de la notoriété, de l'art, etc. Un des tops, hein, parce que vous en avez plein des tops dans votre carrière, Antoine de Cône. C'est à ce moment-là que vous partez en Normandie, quelques mois tout seul dans votre maison, et vous vous retirez, bim.
Oui, mais c'est un besoin irrépressible. C'est-à-dire qu'après 7 ans de quotidienne, moi, je ne peux pas rester là à continuer à faire mes personnages le soir à 19h25, à me déguiser. Enfin, au moins, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour du sujet. Je casse le joujou et je pars ailleurs et je pars faire autre chose. Mm-hmm. C'est vital pour moi, ça.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous changez d'émission chaque année ?
Pas chaque année, mais je
pas mal, quand
change
même.
Régulièrement, oui. Mm-hmm. Oui.
On venait d'évoquer le fait que votre papa...
Défoquer.
On venait d'évoquer.
Les nazis sont de retour. Vous venez d'évoquer votre père.
Je ne comprends pas si bien dire. Vous venez d'évoquer donc votre l'anniversaire. Vous pensiez que votre papa l'avait oublié, et puis non. Le 1er décembre. Et ce jour-là, il consigne donc dans son journal... Mon fils a 9 ans, j'espère qu'il se conduit comme un homme. Mm-hmm. Donc je comprends bien que l'histoire de la cabane, etc., que c'était une injonction, gamin,
ah oui, c'est une d'être injonction, un homme. Ouais. Ah. Ouais, c'est une injonction.
Et pourtant, je pense que vous êtes l'un des hommes de 70 ans les plus déconstruits que je connaisse. Comment vous avez
Qu'est-ce que vous entendez par ça, déconstruit?
Bah, vous n'êtes pas un boomer, vous n'êtes pas je suis un mec qui porte mes couilles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que l'homme est une femme comme les autres, tu vois.
Mais... Oui, non, je me souviens de dire.
Vous êtes quand même assez déconstruit, non?
Oui, mais c'est peut-être. Ça participe de la même chose, je pense. Il m'a pas élevé à la dure. Il était autoritaire à l'ancienne. C'est-à-dire, c'était un exercice vertical de l'autorité, comme on faisait dans les familles au 19e siècle. Et mon père était un provincial, il venait de Toulouse, et d'une petite bourgeoisie toulousaine. Et donc, c'est l'exemple qu'il avait eu sous les yeux. C'est-à-dire que les pères parlaient, les enfants écoutaient. Et les enfants ne remettaient pas en cause la parole de leur père. Ce qui a provoqué quelques frictions, évidemment, plus tard, quand j'ai grandi, assez rapidement même. Mais je pense que ça le réjouissait aussi, parce que comme il avait un esprit de contradiction très, très, très forcené, on peut dire, vous savez que quand on a un esprit de contradiction, on manipule les gens comme on veut. C'est-à-dire on arrive à leur faire des choses qu'ils ne voulaient pas faire simplement en leur interdisant de les faire, vous savez ça.
Donc comme la télé, par exemple.
Comme la télé. Il m'a jamais formellement interdit. Il m'a déconseillé. Il m'a dit, va pas là-dedans.
C'est pour ça que vous y êtes allé.
Non. C'est plus compliqué que ça, oui. C'est plus compliqué. Non, je suis pas allé faire de la télé pour prouver à mon papa que moi aussi, je pouvais faire de la télé.
Non, c'est pas ça. Mais par esprit de contradiction, il vous dit, ne fais pas ça et j'y vais. C'est une interprétation que vous avez donnée il y a de nombreuses années. Michel Drucker vous a réuni, votre père et vous, sur un plateau.
Ouais.
Il vous fait la surprise, vous n'étiez pas au courant. Enfin, c'était comme ça que c'est présenté.
Ouais.
Et il y a comme une joute entre vous, j'ai regardé les images. C'est vous qui dites, un peu par boutade, j'ai fait de la télé parce qu'il m'a interdit de le faire. Et lui répond, votre père, lui interdire, c'était le seul moyen pour qu'il en fasse. Et c'est là qu'on comprend que votre relation n'est pas hyper simple, peut-être.
C'est un homme qui avait beaucoup d'humour. Voilà, je pense quand même qu'il faut commencer par ça. Et pour moi, c'était essentiel parce qu'on a beaucoup ri ensemble. J'ai hérité de lui une certaine forme d'humour, de distance, de refus de l'esprit de sérieux, du refus de l'autorité idiote, des protocoles, tout ça. Donc j'en suis très redevable de mon père. Enfin, c'est le mélange des deux, mon père, ma mère. Ma mère était une femme très différente, très, très, comment dire, très solaire. Je la définis toujours comme ça. Elle voyait toujours le bon côté de la vie. Elle dansait, elle passait sa vie à danser. Elle était comédienne, formation, elle avait une passion pour les comédies musicales. Elle dansait sa vie littéralement. Elle arrivait comme ça, on avait rendez-vous dans un restaurant, elle arrivait en dansant.
Oh. En c'est comme ça que vous êtes arrivé dans le bistrot, je vous rappelle. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Oui, je vous ai fait le pointy, oui.
Ouais.
Oui. Je redécris le pointy ou...
Non, on l'a gardé, on a bien compris. Antoine de Koun est avec nous ce soir.
Ben oui.
Et vous connaissez bien Djoubaka, vous avez travaillé sur cette antenne.
Si je connais Djoubaka, oui.
Qu'est-ce
qu'il nous a encore préparé, lui?
Jalen Gonda.
Je suis sûr que c'est très bien, oui.
Vous connaissez pas?
J'ai pas le choix.
Génial, on va vous faire une découverte. Just as long as we are together. Just stop.
Fanny Macaire, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis au bistrot avec Antoine Decaune.
Eh oui.
Et on a bien de la chance.
Ben oui, elle est bonne cette petite bière.
Hein, je vous conseille, ah, il désert.
On ne voit pas la radio là. Et c'est quand on descend. Hein. C'est quoi la troisième là?
Ah, dites donc. Est-ce qu'on va terminer cette émission
ou pas?
On n'est pas obligé.
Vous
pouvez
la terminer toute seule si vous voulez.
Ne m'abandonnez pas, Antoine.
Ah, si, vous n'êtes pas bourré.
Mais non, vous ne pouvez pas m'abandonner. Parce que là, ce serait une métaphore presque.
Mais non, je
une
suis
allégorie.
Là, je suis là, je ne
une allégorie
pas.
De Île déserte. Georges ou la vie sauvage, cette bande dessinée dont Xavier Coste signe les très beaux dessins, est parue chez Dargo. On a évoqué bien sûr vos parents. Ce sont vos parents qui ont fait la télé française jusqu'à nos jours quasiment. Jacqueline, elle a engagé Dorothée. Quand même, donc c'est comme si on était tous un petit peu les petits-enfants de Jacqueline Joubert. Mmh. Michel Drucker, il raconte souvent qu'il doit beaucoup à votre père. Mmh. Et la télé d'aujourd'hui, c'est celle qui a été fabriquée par vos darons, en fait, un peu, non ?
Disons que c'est une forme de télévision. Mmh. Ils ont eu cette chance quand même, c'était à la toute fin des années 40 et début des années 50, d'hériter d'un outil. Alors, ils ne l'ont pas inventé parce que la télévision existait déjà. Il y avait une télévision allemande pendant la guerre. Qui étaient installés rue Cognac-Jay, qui ont été les premiers locaux de la télévision française après la Libération. Et là, ils ont démarré, alors ils étaient une bande de jeunes journalistes, les Sabac, Darget, Dumayet, Salbert, plein d'autres, à qui on a dit, voilà, maintenant, il n'y avait rien, il faut faire quelque chose. Il faut produire de l'image, il faut, alors avec les moyens de l'époque, hein, c'est-à-dire c'était du film, il fallait développer, il fallait faire des commentaires off après, tout était extrêmement compliqué, sauf les petits moments de direct, les moments de direct qui eux-mêmes étaient très souvent perturbés par des pannes techniques. Et donc ils ont eu à inventer l'outil. Et donc à faire un peu des couteaux suisses. Moi, mon père présentait le 20h, mais il allait commenter le catch, le rugby, le foot, le Tour de France, le Festival de Cannes. Donc il touchait à tout, quoi. Ils n'étaient pas monothématiques. Mmh. Voilà. Donc c'était une époque très passionnante, comme ils me l'ont décrite. Les premières années, avant que le pouvoir politique se rende compte de l'outil extraordinaire que c'était de communication et d'influence. Et là, les choses se sont un peu compliquées dans les années, fin des années 50-60.
Compliquées dans quel sens ?
Bon, c'est-à-dire que, là, par exemple, l'information relevait directement du ministère de l'information, de Roger Perfit, celui qui avait les grandes oreilles. Mm-hmm. Le bien-aimé,
oui.
Pour les bonnes raisons.
Il captait très bien, oui.
Il captait très très bien. Et donc, il y avait une ligne, quoi. On ne pouvait pas du tout plaisanter avec le gouvernement, avec le général de Gaulle.
Ça n'a pas dû plaire à votre père,
et ben, mon père s'est fait virer à 2-3 reprises, oui, du 20h, parce qu'il faisait des commentaires. Il ne pouvait pas s'empêcher de faire des commentaires et de faire des... Non, mais il serait mort pour un bon mot, de toute façon. Donc, Mais donc, il le payait. Et ben, il retournait faire du catch. Ou bien, il partait sur une île déserte, quoi.
Ouais,
hein,
voilà.
Mais il gardait sa liberté.
Bien sûr. Et vos parents se sont rencontrés à Cannes ?
Non, ils se sont rencontrés, en fait, sur un plateau de télé. Ma mère a invité mon père. Il était de retour d'une nouvelle expédition au Groenland. Donc, elle avait fait construire un igloo sur le plateau pour l'accueillir. Et il sortait de l'igloo, il se disait bonjour Georges, bonjour Jacqueline.
Ça, mais... Elle a su comment lui parler tout de suite.
Oui, comment le mettre au frais.
Ouais.
Mais surtout, il a compris un jour qu'il y avait, Anguille Souroche, parce qu'il était à Cannes, présentait le Festival de Cannes. Et ma mère, qui était encore speakerine à l'époque, avait fait ce joli lapsus. Elle dit maintenant, nous allons retrouver Georges de Cannes, en direct du Festival de Cannes.
Ouais. Donc, ça veut dire que vous êtes un enfant du lapsus.
Je suis un enfant du festival, oui.
Non, vous êtes un enfant du lapsus.
Oh, on est Allô, tous des enfants du lapsus.
Et quelle vision du journalisme avait votre papa ?
Il avait un modèle qui était Albert Londres.
Mm-hmm. Voilà. C'est pour ça qu'il a voulu aller voir un bagne au bout du monde, peut-être.
Oui, c'est peut-être pour
c'était
ça.
C'était pas son Cayenne.
C'est peut-être pour c'était... ça, mais ce qui l'a troublé d'ailleurs, c'est que je me suis retrouvé moi-même à jouer Albert Londres dans un téléfilm.
Ah oui.
Et du coup, ça bouclait la boucle d'une certaine manière. Ah. Ça avait fait très plaisir, ça.
Il dit quelque chose de très sensé, de très joli, Georges de Cône. Il y a une inconvenance à parler du monde en restant assis.
Oui.
Donc le 20h.
On est bien passé,
moment...
là.
On parle pas du
on
monde.
On est bien passé dans notre bistrot.
On parle de vous.
Non, on parle de nous, mais je suis le monde. Enfin. Enfin,
non, là, c'est justifié. Vous êtes en face de moi, je suis à la source. Je ne peux pas être plus à la source. Là.
C'était pas un journaliste assis. Oui. C'était un journaliste qui avait le besoin d'aller au contact, d'aller voir ce qui se passait, d'aller parler avec les gens et d'aller comprendre le monde au lieu de le commenter de loin.
Et à l'époque des Enfants du Rock sur Antenne 2, vous avez la vingtaine. J'ai relu quelques portraits et entretiens. Vous concédez que la télé est devenue une drogue. C'est pour ça que vous n'avez jamais décroché ?
J'ai pas du tout une nature addictive, hein, je tiens à le dire tout de suite. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait de la télé, c'est parce que c'était presque une mission pour moi. C'est-à-dire que je voulais donner la parole à tous ces musiciens que la télé n'invitait jamais. Donc toute la scène rock. À l'époque, c'était des grosses émissions de variété, les Carpentiers, les Guy Lux et compagnie, et il n'y avait jamais de rock. Or, je fais partie de cette génération, je suis né après-guerre, et tous les fameux boomers, on a grandi, nous, avec les Beatles, avec la pop anglaise, avec Elvis, et qui est une musique capitale, fondamentale, c'est pas Joe Bocker qui vous dira le contraire, mais cette musique-là n'avait pas le droit de citer. Donc le jour où on a pu entrouvrir la porte et faire rentrer cette musique-là, alors c'était le dimanche midi entre la présence du Seigneur et Jacques Martin, il ne fallait pas la rater. Hein. J'ai investi le terrain et c'était ma mission, c'était de vraiment servir de go-between entre le rock et la télé et les spectateurs.
Donc c'est la musique votre drogue, on peut dire.
Ouais.
Un petit peu, ouais. Bon, donc c'est pas la télé votre drogue, donc même Bolloré vous a pas fait décrocher.
Non, mais c'est pas du tout la télé. Attendez, je réponds d'abord à la première partie de la question. C'est pas du tout la télé qui est ma drogue. Moi, je fais de la télé. Ça répond aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, à la deuxième partie de votre question.
Ouais. Quand vous aviez 20 ans, hein, c'est une drogue.
Je sais pas ce que je voulais dire à cette époque-là. J'en ai 50 de plus. J'ai toujours fait de la télé dans les conditions dans lesquelles j'avais envie d'en faire. On m'a jamais forcé à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire, de faire un prime time sur TF1, de faire une émission de jeu, de faire... du flux classique, ça ne m'intéresse pas. Mmh. J'ai toujours fait des émissions, que ce soit des quotidiennes, des hebdos, des magazines, des trimestriels, des mensuels, à partir d'idées que j'avais et que je voulais appliquer. Ça se retrouve dans toutes les émissions, de Chorus à la Gaule d'Antoine, à Faut voir aujourd'hui l'émission de cinéma. C'est toujours une idée d'une émission que j'ai envie de mettre en boîte. Si je peux la faire, tant mieux. Si je ne peux pas la faire, je vais faire autre chose.
Mmh. Et donc c'est sur Canal+ que vous pouvez le faire et pas ailleurs ?
Oh si, je pourrais le faire ailleurs, mais bon, j'ai une fidélité presque organique vis-à-vis de cette chaîne, sur laquelle je sévis depuis 40 ans maintenant.
Mais Canal+, c'est vous, en fait.
Non.
Côté Mélenchon. Canal+, c'est
non.
Moi.
Non. Je suis un morceau de la croix, si on peut appeler ça une croix. Je suis un bout de cette chaîne, mais je me l'approprie pas, c'est pas ma chaîne. C'est juste un endroit où j'ai pratiqué ce métier, toujours avec une grande liberté. Donc je serais très malvenu aujourd'hui de m'en plaindre. Quoi.
Oui, ça, vous avez la liberté, on comprend bien. Mais par exemple, Georges de Cône, qu'est-ce qu'il dirait du fait que vous travaillez sur une chaîne de Bolloré ? Lui qui adore se moquer, comme vous d'ailleurs, des puissants.
C'est une bonne question. Je pense qu'il en plaisanterait.
Ouais.
Il ferait des mots d'esprit. Ça ne le dérangerait pas plus que ça. Mais après, si vous voulez élargir la question à la nature de l'actionnaire du média sur lequel vous travaillez, là, on ouvre une boîte de Pandore qui peut être intéressante. Mais si on veut vraiment trouver un terrain neutre sur lequel on n'ait jamais le moindre reproche à faire à celui qui vous emploie, on n'est pas couché.
Oui, mais la Bolloré est quand même sur du high level idéologique.
Vous savez qu'à l'époque où Lagardère était propriétaire de la plupart des médias en France, dont Europe 1, mais en même temps premier marchand d'armes au monde, il avait Coluche sur son antenne. Et jamais on a demandé à Coluche si ça le gênait d'avoir Lagardère comme actionnaire principal. Il y avait même une histoire assez marrante entre les deux, qui ne s'était jamais croisée, je ne sais pas si vous la connaissez.
Non, allez-y,
pas.
Ouais.
Un jour, Lagardère passe devant le studio de Coluche, Coluche est là, donc il s'arrête pour le saluer, évidemment, parce que c'était son animateur vedette, et puis ils ne savent pas très bien de quoi parler. La conversation vient sur le Brésil, parce qu'il y avait eu un match de foot, je crois, et Coluche, dans une de ses formules lapidaires, lance « De toute façon, le Brésil, c'est des footballeurs et des putes hein. ». À quoi Lagardère lui répond « Ma femme est brésilienne ». Et Coluche lui renvoie « Ah oui, elle joue dans quelle équipe ?» Donc on s'en sort toujours.
Ça, vous êtes capable de le faire devant Bolloré.
Ah oui, tout à fait, ouais. Oui, aucun problème.
Vous vous foutez de sa gueule au bureau entre vous ?
Non, pas vraiment.
Clignez des yeux, si c'est vrai. Vous ne regrettez pas votre visite au bistrot, Antoine de Cône ?
Non, surtout que la binouse est délicieuse.
Ah oui, oui. Buvez-la parce qu'après, il n'y a plus de mousse. Vous avez fait beaucoup d'émissions de musique et aujourd'hui, les émissions de musique, c'est The Voice et la Starac.
Oui.
C'est chouette,
Je sais. Non, c'est désolant. Je pense que la télévision n'a jamais pris au sérieux, ou pour des raisons qui seraient intéressantes d'analyser, pourquoi ils refusent d'accorder l'importance qu'elle mérite aux musiques dites populaires. Enfin, ces vraies musiques-là, le rap aujourd'hui, par exemple. Le rap, c'est la musique dominante. C'est ce qu'écoutent les gens. Le rap devrait avoir une émission dédiée avec des gens super qualifiés pour l'animer, faire découvrir des nouveaux talents. Enfin,
ça me semble évident. Vous êtes un enfant du rock, vous êtes un enfant de la télé. Aujourd'hui, on a des enfants du rap avec enfants d'Internet.
Ouais.
Donc vous, comment vous trouvez votre place ?
Je la cherche pas. Je la cherche pas parce qu'en fait, c'est, effectivement, Internet a changé complètement la donne. C'est-à-dire maintenant, les gens n'attendent plus la télé pour s'informer. C'est toujours un outil quand même qui est regardé par une population vieillissante. Hein, la moyenne, c'est 62 ans quand même, les téléspectateurs. Mais 62 ans, c'est jeune. C'est encore jeune. Je le sais, je fais un journal qui s'appelle vieux. Non, mais je veux dire, on est disponible à 22 ans. Et puis, on a grandi dans ce monde-là. Donc, on a envie d'avoir des échos de ce monde-là. Donc, je trouverais ça tout à fait légitime pour cette population-là d'avoir une émission dédiée. Ce qui n'est pas le cas.
Ben voilà, vous avez lancé une idée. Donc,
Je suis le lanceur d'idées, moi. C'est mon métier préféré.
Et dire qu'Antoine de Caunes a été élevé chez les jésuites.
Ben oui. Comme quoi ?
J'en reviens pas.
Ça laisse des traces.
Mais ouais. Attendez, ça laisse des traces, c'est du premier ou du second degré ?
Non, c'est du second degré, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Non,
j'ai pas subi de violence. Ouais.
Ça s'est passé comment pour vous ?
Ça rejoignait en fait la méthode éducative de mon père et son esprit de contradiction. Parce que chez les jésuites, il y avait par exemple des textes interdits auxquels on n'avait pas accès. On n'avait pas le droit de lire Voltaire, par exemple, parce que Voltaire était farouchement anti-jésuite. On n'avait évidemment pas le droit de lire San Antonio. Donc j'ai passé mes années chez les jésuites à lire Voltaire et San Antonio, ce qui m'a valu quelques week-ends de colle, pendant lesquels je pouvais lire d'autant mieux, parce que j'étais moins surveillé. Vous voyez, en fait, je pense que la méthode, c'était de vous tester, de tester vos limites, et de voir jusqu'à quel point vous teniez le coup. Si vous cédiez, vous étiez mort, vous étiez cassé en deux. Si vous teniez le coup, si vous vous affirmiez, si vous résistiez à leurs injonctions, là, ça devenait intéressant. Donc en fait, on en sortait un peu plus fort qu'on y était rentré, si je puis dire.
Dans un précédent livre que je conseille chaleureusement aussi, qui est paru chez Sonatine, Antoine de Caunes, perso, vous racontez que ce que c'est que la vie de saltimbanque, de mec rigolo, la télé, la radio, etc., quand on traverse une dépression, ça arrive. Chez vous, ça a duré 2 ans. Et vous conseillez la lecture d'un livre pour sortir du marécage psychique. Alors là, je me suis dit, mais lequel et pourquoi ? Là aussi, c'est pour des amis.
Oui, Face aux ténèbres, William Tyrone, un écrivain américain qui est passé à travers ça, qui a fait un petit texte court d'une centaine de pages qui est d'une efficacité extraordinaire. Alors ça et quelques petites pilules, hein, parce que et puis une oreille attentive, un petit thérapeute, c'est pas mal. Mais le cocktail de tout, et moi j'ajouterais un San Antonio. Je continue à lire, bien qu'il traverse le malheureux un purgatoire en ce moment, puisqu'il coche à peu près toutes les cases de ce qu'on ne peut pas dire, de ce qui n'est pas convenable de dire. Je vous conseille celui que j'ai relu dernièrement qui s'appelle Un éléphant, ça trompe, qui est très très drôle, qui se passe en Angleterre et avec Beru et des nazis à la fin. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon livre. Et sinon, il y en a un autre que j'adore qui est Bouge ton pied que je vois la mer, évidemment.
Je recommande chaudement Île déserte. IL, Georges de Caunes, Georges ou la vie sauvage, paru chez Dargo, Antoine de Caunes avec les dessins de Xavier Coste. En plus, c'est bientôt Noël, donc ça tombe très très bien.
Déjà ? On n'a pas vu l'année passée. Hein.
C'est vrai.
C'est fou ça.
Merci Antoine de Caunes.
Oh, rien, mais je vous remercie aussi au nom de Xavier Coste, que vous avez cité plusieurs fois, qui est un artiste génial. Voilà.
J'ai un projet pour vous, Antoine de Caunes. Moi, je voudrais que vous soyez inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Pour faire quoi ?
Ben pour qu'on vous préserve, qu'on vous clone, qu'on vous... je sais pas.
Mais j'aurais des journées portes ouvertes.
Oh oui.
Oh non.
Tous chez Antoine.
Je refuse.
Bon, tant pis. Il vous reste le mérite agricole. Et voilà, Bistroscopie, c'est fini, mais on se retrouve samedi prochain à 19h20. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Anaïs Reynard à la réalisation, merci à Martin Troadec à la technique, Théo Delobader au mixage et Béatrice James à la documentation.